Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron. L'émission sur la métropole grenobloise. Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous, bienvenue dans la 12e émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez votre émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui dans Gracianopolis, on va parler de la représentation de la ville et de l'image qu'on en a. C'est donc le regard sur la ville qu'on va aborder à travers le dessin, la photographie, la vidéo et le plan. Ces outils sont utilisés par les professionnels comme les architectes et les urbanistes, mais aussi par chacun d'entre nous pour mieux connaître et comprendre sa ville. Nous sommes toujours ensemble avec Rémi pour mener cette émission. Bonjour Rémi.
Bonjour Yvan.
Alors Rémi, pour commencer l'émission, tu nous emmènes sur les hauteurs de Grenoble.
Effectivement Yvan, pour cette émission, je suis allé promener mon micro aux abords des pentes de la Bastille et voici ce que j'ai entendu.
Alors qu'est-ce qu'on voit justement ?
À Grenoble, dans toute sa splendeur, sa pollution et ses industries.
On va voir surtout Grenoble, sur le massif du Vercors, Belledonne et Chartreuse. Après on peut voir aussi le Mont Blanc.
Je vois le plus grand cours de France. Et puis on voit Grenoble de haut. Bah, ça apporte. Moi, j'ai prendre de la distance par rapport aux choses. On voit le centre-ville, on voit aussi la grande banlieue sud de Grenoble. Et voilà, bah, moi, ça me permet aussi de réfléchir à des problématiques de citoyenneté. Par exemple, les quartiers de relégation sociale. Ils sont toujours en périphérie. On parle de mixité, on parle de vivre ensemble. Mais tant qu'il y aura des gens qui seront excentrés et concentrés, on pourra difficilement parler de vivre ensemble. Voilà. Donc c'est ce que ça m'inspire quand je suis là-haut. Voilà, on voit la pollution atmosphérique, mais ça ramène aussi à des pollutions de l'esprit.
Alors cette dernière intervention est très à propos et nous permet d'introduire directement le sujet de ce mois-ci. Alors pour les architectes et les urbanistes, la ville se lit principalement à l'aide de plans, la carte étant l'outil du géographe. Mais il existe pour chacun d'entre nous beaucoup d'autres moyens de représenter la ville et de la lire. Par exemple, comme dans ce micro-trottoir, prendre de la hauteur permet de mieux distinguer les directions des grands boulevards, de percevoir les limites de la ville historique, la voie ferrée, ou encore de chercher à situer les endroits que l'on fréquente. À Grenoble, la lecture de la ville est d'autant plus agréable que la Bastille offre un belvédère naturel, à la différence de beaucoup d'autres villes. La montagne joue quant à elle le rôle de limite naturelle, coupant le regard. Il n'aura échappé à personne qu'un site comme la Bastille se prête également à une photographie, un dessin, voire même à quelques images filmées. Alors si pour beaucoup d'entre nous, la photographie est un outil permettant de partager un souvenir agréable, c'est aussi un moyen de représentation, au même titre que le croquis ou le film. Alors, pourquoi représenter la ville et surtout, pourquoi faire ? Ce sont ces questions qui sont au centre de nos préoccupations dans cette 12e émission de Gracianopolis.
On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Thépeau, qui est professeur à l'École d'architecture de Grenoble et architecte praticien, et dont un des enseignements s'intitule « Approche de l'architecture par le dessin ». Bonjour Patrick Thépeau, bienvenue dans l'émission.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, comme on l'a entendu, Rémi a recueilli la parole des Grenoblois sur le panorama visible depuis la Bastille. Alors, pourquoi la Bastille est-elle si importante dans la façon dont on voit Grenoble ? Et qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant en architecture, vous voyez depuis la Bastille ?
La manière de s'élever reste toujours une chose très importante pour l'architecte lorsqu'il regarde le monde vu du ciel. Et le fait de s'élever à la Bastille nous permet d'imaginer que nous élevons finalement notre pensée. Nous sommes dans le supérieur pour avoir un regard plus large. Alors, c'est un double regard parce que le regard a une dimension intérieure et pourtant c'est à l'extérieur que nous nous adressons. Pour évoquer ce propos, je souhaiterais citer Merleau-Ponty qui nous rappelle dans la phénoménologie de la perception que l'espace n'est pas le milieu réel ou logique dans lequel se disposent des choses, mais le moyen par lequel la position des choses devient possible. C'est-à-dire qu'au lieu de l'imaginer comme une sorte d'éther, dans lequel baignent toutes les choses, ou de le concevoir abstraitement, comme un caractère qui leur soit commun, nous devons le penser comme la puissance universelle de leur connexion. Et de cette manière de prendre position, en fait, nous portons un autre regard sur le monde. Et c'est donc en nous reliant à ces connexions que nos intentions changent dans la manière de voir les limites de la ville. Il a été évoqué les montagnes, il a été évoqué les deux rivières, et ces limites naturelles nous permettent de distinguer avec discernement la relation qui s'établit entre l'artificiel et le naturel.
On parlait également à l'introduction du plan, qui est un moyen de penser la ville. Donc en préparant l'émission, on a sélectionné trois plans un peu notoires de l'urbanisation de Grenoble. Donc un plan de 1850, le plan Josselies des années 20 et le plan Bernard qui précède les Jeux Olympiques de 68. D'abord parlons du plan de 1850. Pouvez-vous nous décrire ce plan et nous dire ce qu'il en reste dans la ville d'aujourd'hui ?
Ce plan qui est extrêmement intéressant parce que c'est une période où il y a une extension qui se fait sur le sud, qui va être bordée par les fortifications Axo et qui va présenter à la fois une soudure tout en étant une coupure. Donc à la fois, j'ai la ville qui va continuer et en même temps, le fait que de nouvelles limites sont mises en place, d'anciennes traces sont néanmoins gardées dans la grille qui est proposée pour cette extension. Et lorsqu'on lit notamment la place de l'Étoile, avec dans sa continuité la rue de Strasbourg et la rue Saint-Joseph, en fait c'est un reste rural qui a été accepté par la grille. Si d'un autre côté nous observons le square des Postes et la place Docteur Léon Martin, qui aujourd'hui est la place et le square Docteur Léon Martin et la place Vaucanson, on a en bordure toute une série de bâtiments qui se prolongent avec la rue de Sceaux et la rue de la Poste. Et finalement, ce ne sont que des façades d'une certaine épaisseur et correspondent à la jonction entre l'ancienne ville et la nouvelle. Et dès qu'on s'introduit dans ces rues, tout le langage de l'architecture change et c'est là où l'on peut observer finement le véritable changement. Donc toute cette lecture de la ville est extrêmement importante parce que ça représente finalement une grande finesse et qui, bien entendu, aujourd'hui ne se lit plus aussi fortement que lorsque cette extension a eu lieu.
Alors on parle de plan, mais il existe aussi d'autres moyens comme le film pour représenter la ville. Nicolas Tixier va nous parler de cela.
Au début du siècle, en fait, il y avait vraiment cette hypothèse que la métropole, les villes, les grandes villes, s'électrifiaient, se mécanisaient, et donc du coup gagnaient en mouvement, en vitesse, en électricité, en lumière, etc. Et qu'il fallait un média ou un médium, et un médium pour les représenter. Et donc le cinéma est arrivé comme le médium par excellence pour montrer le mouvement, pour montrer la nuit, l'éclairage, pour montrer cette mécanisation et électrisation de la ville. Un film qui s'appelle « Quand Grenoble se prépare », qui date de 68, de l'hiver 68, au moment de la préparation des Jeux Olympiques. Et pour le montrer, c'est un chauffeur de taxi qui traverse tout Grenoble et qui commente en fait la situation, qui commente Grenoble. Et il me semble qu'il y a trois raisons de l'intérêt qu'on porte à ce film aujourd'hui. La première, c'est bien sûr de voir des images du passé, et particulièrement parce que Grenoble est une ville qui a peu été filmée, ou qui est peu filmée en général, et que nous n'avons pas l'habitude de voir Grenoble à l'image. La deuxième raison, c'est que l'itinéraire que fait le chauffeur de taxi, en fait, c'est un itinéraire assez quotidien aujourd'hui, puisqu'il emprunte des voies qui sont pour partie les lignes de tramway actuelles. C'est un mélange entre la ligne A et la ligne C. Par où passe la personne avec son taxi, c'est exactement les mêmes endroits où nous passons aujourd'hui tous les jours de façon quotidienne. Et puis troisièmement, c'est que le chauffeur de taxi, il commente sa ville, Et le chauffeur de taxi, en fait, c'est un homme, entre guillemets, ordinaire. Il a un métier, chauffeur de taxi. Il n'est pas expert de l'histoire de Grenoble, etc. Et ce qu'il nous raconte est tout à fait passionnant. Et à mon avis, ça réhabilite la parole habitante, la parole de tous, pour décrire la ville dans laquelle on habite, ou pour décrire nos perceptions. Parce que les courts-métrages, ils ont l'avantage, c'est que, en général, ils sont faits avec peu d'argent. Et donc, et souvent sans autorisation de tournage. Et donc, du coup, on ne fabrique pas de décor, on n'a pas de figurants, et c'est la vraie vie, les vrais gens qui sont dans l'image. Mmh. Ce qui n'est jamais le cas, ou quasiment jamais le cas, dans les longs métrages. Puis, si on prend par exemple un tout dernier, c'est Guy Moquet, qui a été réalisé à La Villeneuve par Demi Séranger, par des anciens architectes pour partie de l'école d'architecture. Là, ça pose la question de l'espace public à La Villeneuve. C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut embrasser une fille dans l'espace public à La Villeneuve, mais c'est pas si facile parce qu'on est sous le regard des autres. Et du coup, est-ce que l'espace public du parc de La Villeneuve est un espace public comme les autres? C'est un peu la question que pose le film. Produire des représentations, c'est pas que des représentations pour représenter, c'est tout simplement de l'espace public que l'on fabrique, et c'est de la mise en débat de notre condition même.
Alors, deux grands plans d'urbanisme rythment le développement de Grenoble avant et après la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'abord le plan Jocelyn en 1925. Alors, comment dans ce plan est pensée la très forte expansion au-delà des fortifications de la ville, Patrick Thépot?
Alors, en fait, ce qui se produit à la lecture de ce plan, c'est qu'on constate que la gare est déplacée et elle s'inscrit au sud, plus ou moins localisé autour de la MC2 actuelle. Et finalement, il y a une nouvelle centralité qui s'établit et qui, dans sa discontinuité, introduit finalement une forme de continuité.
Ensuite, dans les années 60, il y a Henri Bernard, qui est Grand Prix de Rome, qui est désigné pour organiser la ville de Grenoble. Quelle vision de la ville on voit dans ce plan-là? Quels en sont les objectifs? Et quelle différence dans la représentation de Grenoble et de l'environnement urbain on peut percevoir dans ce plan?
C'est encore une fois une extension qui tend vers le sud. Et si à l'origine, les terrains n'étaient pas heureux dans le sens où ils étaient insalubres, ils étaient marécageux, donc finalement, Grenoble a toujours eu une certaine réticence à aller vers le sud. Néanmoins, c'était une des seules façons de s'étendre. Donc en fait, ce plan, il va préfigurer tout le devenir dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et à cette période, autour des années 70, va naître un plan utopique et surtout social, qui est la ville neuve.
Et qu'est-ce qu'il y avait auparavant, dans justement ce territoire du sud de Grenoblois urbanisé à ce moment-là?
Alors en fait, c'est un monde rural, c'est un monde agricole, c'est un monde de marécage et qui n'est pas encore habité.
On fait tout de suite une petite pause musicale.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses malappris. Elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Et nous venons d'écouter Les amoureux des bancs publics par Georges Brassens, qui chantait la poésie des trottoirs de nos villes.
Alors vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 dans Gracianopolis, et nous sommes toujours en compagnie de Patrick Thépot pour parler des moyens par lesquels on représente la ville, et en particulier, Grenoble. Donc avant la pause musicale, nous avons vu comment était représentée la ville à travers le plan et la vidéo. On cherche maintenant à comprendre comment on représente la transformation de cette ville. Alors, Patrick Thépot, quels sont les principaux moyens par lesquels les architectes, les urbanistes ou les paysagistes parviennent à montrer la ville, et comment ils utilisent chacun de ces moyens de représentation?
C'est Aristote qui nous dit qu'il n'est pas possible de penser sans représentation. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du dessin dont je me préoccupe, et dans la manière de travailler, ou en tout cas de lire comme on peut imaginer la lecture au sens du reading tel que le développe Giancarlo De Carlo dans ses propos quant aux analyses de la ville, eh bien, il est important d'être capable de discerner pour mieux désigner. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours partir d'un support ou de plusieurs supports, car on n'a jamais le bon support. Et la difficulté, elle est de recréer un nouveau support de pensée. Donc on va isoler par l'esprit un certain nombre d'éléments pour conduire la pensée.
Très bien. Quelle est l'utilité d'un croquis ou d'une photo? Quelle est la différence entre ces deux moyens, par exemple?
Alors, il y a forcément... Pour chaque outil, il y a un niveau de pensée différent, dans le sens où lorsqu'on est dans la situation d'une esquisse qui finalement, dans son sens étymologique, nous parle d'approximation, nous sommes dans une relation à l'approximation, et par le dessin, on peut avoir différents états d'approximation jusqu'à des choses extrêmement précises. La photographie nous invite dans un autre imaginaire. Ils ne sont pas concurrents, finalement. Ils montrent autrement, tout simplement.
On écoute tout de suite Marine Jambot, architecte et dessinatrice, qui nous parle de sa pratique de urban sketcher.
Alors, les urban sketchers, c'est donc les, en anglais, les croqueurs urbains. Et en fait, c'est une communauté qui est née aux États-Unis il y a quelques années et qui regroupe des gens... comme moi, qui aime pratiquer le croquis in situ, sur le vif, et qui se regroupent pour dessiner ensemble à un instant donné. Et à Grenoble en particulier, on est un groupe d'une vingtaine de personnes à se retrouver pour dessiner comme ça, en fait, tous les trimestres. Ce que je vois de la ville par le croquis, c'est la possibilité de représenter quelque chose qui m'attire l'œil, en essayant de saisir... des scènes urbaines. En fait, le croquis, par sa rapidité, il permet ça, il permet d'aller à l'essentiel et de dégager une certaine spontanéité que n'a pas forcément le dessin très abouti, où on sent qu'il y a vraiment des heures et des heures de travail derrière. C'est donc un dessin que j'avais fait pendant les travaux du tram E. Donc c'est daté de juin 2013 déjà. Donc ici, on voit qu'on se trouve au croisement entre le cours Beria et le cours Jean Jaurès. On a des façades assez détaillées du cours Jean Jaurès avec ses immeubles assez hauts. Et puis au premier plan, on voit ces barrières métalliques assez caractéristiques du chantier qui sont roses et jaunes. Et et on sent un peu de désordre en fait par toutes les obliques qu'il y a dans le dessin, le camion qui est au milieu du chantier du tram, des panneaux provisoires qui indiquent par où aller à Castor, des fils électriques provisoires également qui coupent l'image. Enfin, ça c'est le jardin de ville. Et là, ce que j'ai représenté, c'est un peu les différents plans qui nous mènent en fait de la roseraie avec la sculpture de Lesdiguières jusqu'à la Bastille tout en haut, en passant par cette grosse frange de marronniers, les façades qui sont sur le jardin de ville, et puis derrière, voilà, la montagne qui domine Grenoble. L'avantage en fait d'avoir ce statut de dessinateur urbain, c'est qu'on se balade avec ou sans tabouret, et puis on se pose un peu n'importe où, là où il y a quelque chose voilà, qui retient notre attention, et puis là on se dit « Ah, il faut que je dessine ça ». Donc c'est vrai que c'est un peu sujet aux saisons, parce qu'en hiver, on a plutôt envie de se trouver un café bien vitré, bien chauffé pour dessiner. En dehors des cafés, ça peut être Caserne de Bonne, Estacade, Saint-Laurent.
La ville met souvent en scène les grands projets urbains, Patrick Thépeau, notamment à l'aide de grands panneaux sur l'espace public qui représentent l'évolution de tel ou tel quartier. Donc on voit des perspectives en images de synthèse, comme celle du trameux, de la Caserne de Bonne ou de l'Esplanade. Quelle image de la ville renvoie ces représentations ?
Dans Le Mal Noir de Nina Berberova, nous avons un héros qui quitte Paris, puis New York, qui ensuite arrive en train à Chicago. Et quand il descend de la gare, il est face à des panneaux publicitaires. Et elle nous dit, des affiches, un monde bleu, rose, vert, une imitation de la réalité trop précise pour être vraie. Plus une imitation est réussie, moins on y croit. Moins on reconnaît le monde où l'on est né, où l'on mourra, et où il y a tant d'inachevés, de non-dits, d'incompris. Plus une représentation est irréelle, plus elle nous touche. Donc en fait, on est en train de réfléchir sur l'abstraction qui devient la condition impérative pour transformer le réel en dessin, pour traduire une idée d'un espace ou d'une surface en deux dimensions qui doit faire peut-être rêver autrement que par une forme de la réalité.
Donc après avoir parlé des moyens pour les architectes de représenter la ville, on écoute une démarche artistique mise en place par le laboratoire. On écoute tout de suite donc Philippe Mouillon, fondateur de cette association.
Donc l'idée avec Paysage In Situ, c'est de travailler sur un sujet qui nous soit commun aux uns et aux autres, quelles que soient les origines, les générations, etc. Comment peut-on amener les individus à être plus attentifs à l'environnement dans lequel ils vivent? Et quel est l'intérêt d'être attentif à l'environnement dans lequel on vit? Notamment, c'est tenter de ne pas participer à la destruction généralisée des écosystèmes. Les musées sont pleins de peintures de paysages, et notamment il y a une école dauphinoise dans les musées de l'agglomération grenobloise. On va fabriquer une banque d'images qui sera libre d'accès, dans une posture assez simple qu'une posture de Monsieur Tout-le-Monde, rechercher là où ils habitent, ou reconnaître sur la peinture un lieu qu'ils connaissent. Et l'idée de leur dire, aidez-nous à localiser où étaient ces œuvres, faites une réplique à l'identique. C'est un jeu dont les gens se sont emparés. C'est-à-dire, vous savez, en cette époque où beaucoup de politiques tentent d'investir la participation citoyenne, qu'on a une population qui mord à l'hameçon et qui participe. On a, si vous consultez le site, vous verrez que l'on a tous les jours de nouvelles répliques qui sont mises en ligne avec une régularité très étonnante. Pour certains, ils arrivent à retrouver au mètre près l'emplacement où était un auteur il y a 150 ans. Comment est l'environnement aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 150 ans? Généralement, et c'est là que ça devient intéressant pour un urbaniste, un architecte, etc., un aménageur, c'est que parfois le paysage est resté d'une très grande stabilité, c'est notamment vrai en haute montagne, puisque on a certains paysages qui sont faits à 2500 mètres d'altitude, pas de souci là, très grande stabilité du paysage naturel. Par contre, dès que l'on s'approche du milieu urbain, on est témoin d'abord des aménagements lourds, par exemple les quais de l'Isère qui sur les peintures n'existent pas, En 1850, les habitants de Grenoble dialoguent avec l'Isère. Donc, en travaillant à faire une réplique et en comparant la réplique à l'œuvre originale, tacitement, les gens sont amenés à se questionner sur l'évolution de l'environnement, notamment l'environnement urbain. Et comme à la fin du processus, on a toujours dit que dans un an environ, nous installerons des bancs à l'emplacement exact où était le peintre, grâce au recoupement statistique des géolocalisations proposées par les joueurs. Et là, on fabrique vraiment de l'espace public, de l'espace d'échange, des controverses.
Donc ce témoignage qu'on vient d'écouter montre de nouveau l'importance pour chacun d'entre nous de produire des représentations du paysage de notre vie quotidienne. Est-ce que dans les processus d'urbanisme participatif, il y a des nouveaux moyens de représenter la ville et du coup de partager ce regard et d'en créer un regard commun, Patrick Despois ?
On est toujours dans une relation où on va tenter d'extraire des traces du passé et finalement aussi des signes pour le futur. Dans cet échange lié à la participation, ce que je trouve fantastique, c'est la manière dont il faut être dans une relation continue, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un accompagnement qui va du début jusqu'à la fin. Et cette manière de travailler reste extrêmement importante pour qu'il n'y ait pas une rupture dans cette participation.
On a bien compris les enjeux de la représentation de la ville. On arrive maintenant au terme de notre émission. Donc, comme notre habitude ici à Radio Campus, on pose la dernière question comme on l'a fait à chacun de nos invités précédents. Qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise ?
Eh bien, la métropole grenobloise, c'est déjà un changement d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va se mettre à penser autrement, avec d'autres liens, d'autres connexions, car la nouvelle étendue de la ville eh bien, va forcément croître de telle façon que nous sommes dans une situation presque de ville-territoire.
Ce 12e numéro de Gracianopolis touche maintenant à sa fin. On souhaite remercier les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Merci tout d'abord à vous, Patrick Despois, d'avoir accepté donc l'invitation. On remercie pour le temps qu'il nous a accordé Nicolas Tixier, entre autres président de la Cinémathèque de Grenoble et organisateur du Festival Traversée Urbaine, dont vous pouvez retrouver le programme sur Internet. Merci aussi pour l'échange à Philippe Mouillon de l'association Le Laboratoire. Vous pouvez participer à l'opération Paysage in situ et voir l'exposition au musée de Grenoble et au musée Hébert à la Tronche jusqu'à fin janvier. On souhaite également remercier Marine Jambot qui nous a parlé de sa pratique du croquis. Et vous pouvez retrouver son travail sur Internet et sur son blog, majavisual.blogspot.fr. Rémi, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Gracianopolis. Vous pouvez nous retrouver comme toujours sur notre blog sur Place Grenette, sur notre audioblog mixcloud.com/Gracianopolis et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.